Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Billy Van Lutumba.
Pour vous informer, en cette soirée, nous vous présentons la situation actuelle dans la localité Kishishe où une cinquantaine de personnes ont été tuées, dont trois enfants. Les terroristes du M23 sont mis en cause alors qu'un calme précaire est signalé ce vendredi matin dans la région. Nous vous parlons également de ces tueries survenues à Moudipela dans la ville de Bounia, province de l'Ituri. Un crime qui a suscité la colère de certains habitants mais que la police apaise pour privilégier la cohésion sociale. Nelly Kieya, coordonnatrice du mouvement Rien sans les femmes, est notre invitée ce jour. Elle est à la tête d'un groupe des femmes du Nord Kivu qui ont quitté la ville de Goma par route et avec leurs propres moyens pour se rendre à Nairobi au Kenya pour faire entendre leur voix. Gardez la fréquence de Radio Okapi pour en apprendre davantage, fidèles auditeurs. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Territoire de Rutshuru, parmi les victimes du massacre perpétré par les rebelles du M23 à Kishishe, une cinquantaine de personnes, dont trois enfants, auraient été tuées dans une église de la place alors qu'elles y avaient trouvé refuge. C'est ce qu'affirme un notable de la place que nous avons joint au téléphone ce matin. Solidaire local condamne plutôt ce qu'il qualifie de crime commis par le M23 contre la population qu'ils ont accusé d'être des Maïmaï Nyatoura. Suivez son témoignage qui a requis l'anonymat.
À Kishishe, on a tué plus de 122 civils. Et qui les ont tués, ce sont les M23 qui sèment la terreur dans la région. Dans l'église adventiste au niveau de la petite agglomération de Kishishe à Kilama, 64 personnes avaient trouvé refuge dans cette église. Alors, ils ont été tous tués, dont trois enfants. Alors, on a tué seulement les hommes, bon, on a laissé les femmes, bon, pour aussi s'évader. Voilà ce qui se passe là-bas, bon, sont indexés d'être des Maïmaï, d'être des Nyatura, d'être des FDLR. Pendant que c'est une population que je connais très bien moi-même, nous sommes nés dans le groupement de Bambou, on connaît très bien le comportement de la population de ce groupement. En tout cas, c'était l'agglomération sûre vraiment en matière de la sécurité. Mais ce qui m'a appris, c'est de dire que la population de là est devenue une population Maïmaï, Nyatura. Voilà en tout cas ce qui nous énerve, pendant que c'est une population qui est pacifique et qui est vraiment hospitalière.
Et en territoire des retours, toujours un calme précaire est signalé ce vendredi matin dans la région de Kishishe, Kirima, Louchébéré, groupement Bambo, chez Ferry de Buito. Des affrontements et tueries des civils enregistrés ont été enregistrés ce mercredi et jeudi dans les localités. C'est ce qui a occasionné un déplacement massif de la population de Kibirizi vers Kanyabayonga dans le Grand Nord. Pendant ce temps, les sources concordantes affirment que les FRDC contrôlent toujours les localités de Kachalira, Kirima, Kibirizi et le pont Rwindi où ils ont réussi à stopper l'avancée des M23. Les détails avec vous, Pelé Kipelamondo.
D'après les sources locales, la situation reste tendue dans cette partie du groupement des Bambo. 90% de la population qui avait trouvé refuge à Kibirizi ainsi que les autochtones sont partis depuis hier et ce matin. Elles se dirigent vers Kanyabayonga à 80 km de Kibirizi. La plupart à pied avec femmes et enfants à cause de l'absence de véhicules et motos, expliquent nos sources. La population craint d'être victime d'un éventuel massacre comme ce qui s'est passé à Kishishe. Toutes les activités sont paralysées dans cette région alors que Kibirizi constitue une plaque tournante d'approvisionnement en produits vivriers vers Goma et produits manufacturés vers les localités environnantes. Jusqu'ici, les FRDC ont réussi à bloquer les rebelles qui cherchent à tout prix à couper l'axe Rwindi, Kibirizi et Nyanzale, ce qui rassure encore quelques leaders locaux restés à Kibirizi pour observer la situation.
Là, vous venez de suivre ce reportage rendu par Innocent Fazili. À Bounia, quatre personnes d'une même famille ont été tuées à l'arme blanche par des inconnus et à Kolomani dans le quartier Moudipela. Selon des sources concordantes, il n'y a jusque-là aucune précision sur l'identité des auteurs et le mobile de ce crime qui a suscité la colère de certains habitants. Les responsables de la police et de la société civile appellent la population au calme et surtout à éviter de communautariser ce meurtre. Cela en vue de préserver les acquis de la cohésion sociale entre les différentes ethnies. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Les quatre victimes sont une dame de 70 ans, un homme de 54 ans, sa femme de 45 ans et leur enfant de 22 ans. Ils ont été tous tués à la hache, selon certains, à l'aide d'une barre de fer, selon d'autres. Leurs corps ont été retrouvés tôt ce matin à environ 20 mètres de leur habitation. l'habitation. Un meurtre qui s'est déroulé dans l'anonymat. Même les voisins n'en ont rien su, explique le chef du quartier Moudipela. À ce stade, nous ne disposons pas d'assez d'informations sur les circonstances de ce drame, a déclaré de son côté le commandant ville de la police à Bounia. Le major Abeli Mwango précise que des enquêtes sont ouvertes pour retrouver les auteurs de ce forfait. Depuis la matinée de ce vendredi, des images horribles de cet assassinat circulent dans les réseaux sociaux, ce qui suscite un sentiment de colère ou de vengeance chez certains habitants qui attribuent ces tueries à un règlement de compte. Le coordinateur intérimaire de la société civile de l'Ituri demande à la population de laisser les services de sécurité faire leur travail. Recourir à la vengeance à cause de l'appartenance ethnique des victimes risque de casser l'élan de cohésion sociale qui se remet petit à petit, affirme Jean-Marie Ezadri Bounia, Jean-Claude Lequi, Dilet, Radio Capi.
Au Katanga, les services de sécurité ont présenté hier jeudi au gouverneur 5 taximens moto présumés auteurs du meurtre d'un pasteur le dimanche dernier au quartier Kabulameshi à Lubumbashi. D'après plusieurs personnes, solidaires religieux a été tué par les taximens moto après des discussions avec l'un d'eux qui l'a transporté et qui l'accusait de vouloir lui ravir la moto. Jacques Kaboula, qui a fustigé ce comportement, a demandé à la justice de faire son travail pour que les coupables répondent de leurs actes. Jean Ngandou.
Après le meurtre du pasteur Jérémy Doxalengue, dont la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, et surtout de l'indignation qui a suivi dans l'opinion, les services de sécurité ont mis la main sur les présumés auteurs de ce drame qui sont les taximens moto. Tous ont été présentés à l'autorité provinciale. Pour le gouverneur du Haut-Katanga, les motocyclistes ne sont pas au-dessus de la loi.
Nous avions constaté avec regret que ces derniers temps, il y a des comportements déviationnistes des motards et nous ne pouvons pas laisser la situation perdurer. L'État doit assurer l'ordre et la sécurité de tous. Les motards ne peuvent pas être au-dessus de la loi.
Jacques Kaboula a ainsi demandé à la justice de faire son travail pour que chacun d'entre ces présumés meurtriers réponde de ses actes. Pour le président de l'Association nationale des motocyclistes du Congo, il est inadmissible pour qui que ce soit d'ôter la vie à quelqu'un d'autre. Ainsi, Henri Mboui condamne ce drame et appelle les motocyclistes à plus de conscience et au respect des autorités établies.
Des actes de barbarie des motards qui parviennent même à ôter la vie d'une personne. Ce sont des situations que nous condamnons tous. Nous allons appeler tous les motards du Haut-Katanga à un changement de mentalité. Quand il y a un problème, vous amenez la personne auprès des services de l'État. C'est faire justice, tuer, brûler, non, ça nous condamnons.
Lubumbashi, Jean Ngandou, Radio Kapi.
Et dans la province du Maniema, 10 présumés bandits à main armée, dont 2 femmes et un policier qui insécurisent la ville de Kindu, ont été présentés hier jeudi au gouverneur intérimaire Afani Idrissa Mangala. Selon le commandant en ville de la PNC, cette bande est pilotée par un certain Mbote Mpote. Les détails avec Florence Kizalonga.
D'après le commandant PNC Ville de Kindu, ces présumés voleurs à main armée ont commencé à opérer depuis le mois de juin dernier dans différents quartiers de la ville. Partout où ils sont passés, ils ont emporté des biens de valeur de paisibles citoyens. Colonel Saïd Imadjaliwa.
Le chef de file s'appelle Mbote Mbote Job. C'est lui qui était venu le premier ici chez nous, au Maniema. Et il a commencé ses sales besognes dans un groupe que jusque-là, il ne voulait pas dévoiler. Suite au mécontentement de leur partage débité entre lui et ses collègues, il a envoyé de l'argent chez eux pour recruter la bande que vous voyez là-bas. Il y a deux dames qui sont derrière lui, Madame Maria Onjo, qui est la mère biologique de Monsieur Job et de Monsieur Pierre. Parmi eux, vous trouverez, il y a un policier. Son nom, c'est Kitoko David. C'est un policier de carrière. Excellence, la moto que vous voyez là-bas a été volée selon nos investigations, tout près de la maison bleue. Jusque-là, le propriétaire n'est pas encore identifié.
Saluant le courage et le professionnalisme de la police et autres services de sécurité, les gouverneurs intérimaires demandent aux juges naturels de ces présumés malfrats de traiter leur dossier avec sérénité. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Le secteur de l'énergie fait face à plusieurs pesanteurs qui retardent son développement. Parmi ces pesanteurs figure par exemple la parafiscalité. Déclaration du président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Albert Yuma estime que pour développer ce secteur, il faudrait accélérer l'opérationnalisation de l'Agence nationale d'électricité en milieu rural et périurbain, combattre le vol des câbles électriques et le sabotage des projets privés dans ce secteur. Il l'a dit à l'ouverture de la conférence sur l'énergie en RDC ce vendredi 2 décembre ici à Kinshasa. Albert Yuma est au micro de Paul Matendo.
Le secteur de l'énergie reste malgré tout confronté encore à certaines pesanteurs qui retardent son développement. Je n'y reviendrai pas trop, mais le climat des affaires demeure préoccupant pour les opérateurs privés qui se lancent dans ces projets. Il y a toujours une fiscalité, une parafiscalité qui accroît les coûts de facteurs de production et ne permettent pas réellement qu'on puisse livrer aux populations l'énergie électrique à des tarifs compatibles avec le pouvoir d'achat. Pour rendre le secteur de l'énergie plus attractif et diminuer l'impact de la faiblesse du climat des affaires, les éléments suivants devraient constituer une priorité pour les pouvoirs publics et les autres parties prenantes. J'en cite quelques-uns. Accélérer le déploiement et l'opérationnalisation de l'ARE et l'ANSER au niveau des provinces. Il faudrait aussi, parce que ça devient trop récurrent, aider à lutter contre le vandalisme et le vol des câbles électriques, ainsi que les sabotages des projets privés.
L'agence des communications et des productions, les As de la presse, basée dans le chef-lieu de la province du Kulu, a organisé hier jeudi 1er décembre une conférence débat sur les principales innovations de la nouvelle loi électorale. L'objectif principal est de sensibiliser la population de Bandundu sur ces notions afin de s'approprier cette loi. Deux experts sont intervenus dans cette conférence, à savoir le secrétaire exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI du Kulu, et un député provincial. Les participants à ces assises sont notamment les cadres et militants des partis et regroupements politiques, les acteurs de la société civile du Kulu et la communauté scientifique de cette ville. Le point avec Irène Bouma.
Cette conférence débat organisée jeudi à Bandunduville par l'agence de communication et de production, les As de la presse, a eu comme thème « Élections de 2023, les enjeux de la nouvelle loi électorale ». À l'occasion, le secrétaire exécutif provincial de la CENI Kulu a présenté un brillant exposé sur les innovations de la nouvelle loi électorale. Jean-Robert Mouyens note qu'il s'agit entre autres de l'introduction du seuil de recevabilité des listes au prorata de 60% des compétitions, de l'obligation pour la CENI de numériser tous les procès verbaux de vote et de dépouillement et de les mettre sur son site internet. Il y a aussi la prise en compte des dimensions genre dans la constitution des listes et autres. Et le député provincial Franck Gatola, deuxième intervenant, est revenu sur les scrutins proportionnels.
Les scrutins qui nous ramènent à ces élections, parce que si on ne connaît pas comment se présentent ces scrutins, ça veut dire que nous allons embrasser quelque chose dont on ne connaît pas la tête ni la queue. C'est comme ça que nous sommes venus pour expliquer à la population la manière dont se passent les scrutins.
Cette conférence débat s'est déroulée dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Kulu. Initiative louée par tous les participants et les intervenants qui ont estimé que cela doit être pérenne. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa fait face à des sérieux appels à la démission après qu'une enquête parlementaire a révélé qu'il pourrait avoir enfreint les lois anticorruption du pays liées au vol des millions de dollars dans sa ferme de chasse à Palapala. Cette enquête a fait suite aux allégations de l'ancien chef des services de renseignement Arthur Fraser, selon lesquelles M. Ramaphosa aurait tenté de dissimuler le vol des millions de dollars dans sa ferme en 2020. Ramaphosa devait se présenter au Parlement jeudi et répondre aux questions, mais a préféré reporter sa comparution. Le gouvernement de Sao Tomé-Principe a ordonné jeudi une enquête sur des actes cruels et inhumains présumés commis par des militaires sur des hommes accusés par le Premier ministre d'avoir tenté le 25 novembre de mener un coup d'État, annonce l'agence de presse publique. Le chef du gouvernement, Patrice Trovoada, a fait affirmer vendredi 25 novembre que 4 assaillants avaient été capturés après 6 heures d'échange des tirs au quartier général de l'armée dans la capitale Sao Tomé, ainsi que 2 commanditaires arrêtés plus tard chez eux, dont l'ex-président de l'Assemblée nationale sortante et opposant Delphine Neves.
L'invité.
Un groupe de femmes du Nord Kivu qui ont quitté la ville de Goma par route et avec leurs propres moyens pour se rendre à Nairobi au Kenya. Ces femmes disent s'être rendues à Nairobi pour faire entendre leur voix car elles sont fatiguées de la situation de crise dans la partie est de la RDC. L'une d'elles qui est coordonnatrice du mouvement Rien sans les femmes est l'invitée de la rédaction. Nelly Kieya s'entretient avec Martial Papimukeba.
Madame Nelly Kieya, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Pourquoi vous avez décidé, avec un autre groupe de femmes, de rejoindre Nairobi par vos propres moyens?
Nous avons pris les bus
Bien sûr, il y a eu certaines personnes qui ont été appuyées pour arriver là. Nous avons pris les bus pour être jusqu'ici. Ça n'a pas été facile. Plus de 24 heures sans dormir, sans se reposer parce qu'on ne voulait pas non plus être en retard. Il y avait le programme qui changeait à tout moment, mais on s'est dit on y va. Personnellement, j'ai un bébé de 7 mois que j'ai laissé parce qu'il ne pouvait pas supporter le froid. Nous sommes venus en tant que rien sans les femmes avec toutes les collègues qui sont venues, qui se sont sacrifiées. C'est parce que le mouvement d'abord, lui en soi, il travaille sur la promotion de la participation de la femme dans les postes de prise de décision et particulièrement la résolution 1325 qui encourage cela. Elle encourage à ce que les femmes puissent contribuer dans les tables de discussion sur les questions de paix et sécurité. Donc nous sommes venus ici parce que nous sommes touchés. Nous sommes des femmes victimes et on voulait quand même contribuer pour une fois. Et en tant que membre de la communauté congolaise, membre de la communauté du Nord Kivu, membre de la communauté du Sud Kivu, parce qu'il y a des femmes qui sont ici, qui sont du Sud Kivu, elles sont de plusieurs provinces, du Maniema, elles sont venues avec nous parce que nous en avons marre de voir que la situation persiste et il y a des accords et des accords. Nous avons y analysé les accords à partir de l'accord de l'Emera jusqu'à tous les autres accords qui ont suivi. On ne comprend pas pourquoi il y a toujours des dialogues mais les choses ne changent pas.
Et qu'est-ce que les femmes du Nord Kivu pensent du processus de Nairobi?
Ce que je peux dire, la perception qui est aussi de mes collègues qui sont venus sans être invités peut-être, le processus de Nairobi c'est quelque chose à encourager parce que ça réunit tous les groupes armés en principe, bien qu'il y a ceux qui manquent mais qui sont considérés comme des terroristes bien sûr. Et si nous sommes venus c'est parce que nous avons cru dans ce processus qui est un processus qui peut nous amener à une paix durable. Mais c'est quand même important de savoir que d'y ressortir ici, et ce qui est notre message phare, c'est que ces jeunes qui sont ici, ces papas qui sont ici, qui font partie de groupes armés, le programme DDRC, ou même si on n'arrivait pas au programme DDRC, tous les autres programmes doivent être mis en place si on veut leur désarmement, doivent prendre en compte des mesures spécifiques qui vont les amener à être autonomes, non seulement à eux, mais aussi leurs dépendants, leurs épouses, leurs enfants. À un certain niveau, vous allez comprendre que si ces jeunes-là, leur condition de vie n'est pas améliorée, c'est insécuriser même nous-mêmes en tant que femmes, au fait. C'est insécuriser la communauté où ces personnes feront partie parce qu'ils ont leur mode de fonctionnement. Et donc, s'il y a des besoins qui ne sont pas pris en compte sérieusement, d'une façon vraiment qualitative, ça va causer problème. C'est insécuriser la communauté même.
Et vous, en tant que maman, quel message vous lancez aux jeunes en général et en particulier aux jeunes filles souvent violées, déplacées, sans accès à l'éducation suite aux violences dans la partie est de la RDC?
Le message que je peux lancer à ce niveau-là, c'est un message de courage parce que nous traversons des moments difficiles. Des fois, il est même difficile de savoir qui est victime et qui ne l'est pas. Mais il faut beaucoup de courage. Il faut faire partie des survivantes et actrices de paix. Que cette situation que nous traversons puisse créer à nous une révolte qui va nous amener à ne plus être une porte d'entrée pour des conflits futurs.
Madame Nelly Kea, merci.
Merci beaucoup.
Et voilà qui met un terme à cette édition de journal sur Radio Okapi. Nous vous disons merci de l'avoir suivi, tout en vous rappelant que ce journal a été préparé par Pélékipé Lamondo et l'ensemble de toute la rédaction. Continuez à nous faire confiance et à vous informer sur www.radiookapi.net.